Toit d'Europe, c'est une association dont on vous a déjà parlé, qui est toujours active. L'une de ses fondatrices, Sophie Herriot, châtelinoise d'origine, est passée dans le studio il y a quelques jours.
Toit d'Europe, c'est un projet journalistique qu'on a entamé depuis 2017 avec Mathilde, ma sœur, où on part à la rencontre de jeunes Européens entre 18 et 35 ans pour comprendre leurs attentes sur le futur de l'Union Européenne. Et donc ça a donné lieu à un documentaire qui a été présenté dans plus de 120 villes européennes entre 2019 et 2020. Et après, avec le Covid, on l'a lancé une web-série sur les jeunes et le Covid, comment ils vivaient avec la nouvelle crise et la nouvelle pandémie qui a frappé tout le monde, dont les jeunes.
Alors cette web-série, évidemment, elle a eu lieu à distance. Enfin, c'était des Zooms ou des procédés comme ça, j'imagine.
Oui, par rapport au documentaire qu'on avait fait et aux premiers épisodes de Toit d'Europe, cette nouvelle web-série se fait via des visioconférences, via des Skype. Et on a repris contact avec plus de toutes les personnes avec qui on avait fait le documentaire. Donc c'est à peu près plus de 300 personnes.
Dans tous les pays, enfin les 27 du coup.
Dans les 27, oui, on a repris contact avec les personnes avec qui on avait travaillé et là on a démarché de nouvelles personnes et ça fait qu'on a interviewé là depuis l'année dernière, depuis le lancement de la nouvelle série, plus de 120 personnes.
Vous avez pris le parti d'interviewer un maximum de gens plutôt que d'en prendre certains ou certaines et puis de les suivre plusieurs fois, non, c'est ça?
Alors à la base, Toit d'Europe, c'est qu'on ne voulait pas choisir des personnes, c'est les personnes qui venaient à nous. On avait posté des messages sur les réseaux sociaux et c'est encore la même démarche qu'on réalise aujourd'hui. On a recontacté donc toutes les personnes avec lesquelles on avait déjà travaillé avant. Et après, en fait, on ne fait pas de choix entre des personnes, c'est vraiment, ça se fait en fonction des personnes qui nous contactent. Et après, des personnes qu'on ne peut pas prendre pour les vidéos, par exemple, qui ne sont finalement pas disponibles, on va réutiliser leurs témoignages pour des articles sur notre site internet, par exemple. Ça peut être aussi ça, avec toujours l'idée participative du projet Toit d'Europe.
Ouais, c'est un travail d'histoire en train de se faire, on va dire. Et est-ce qu'il y a quand même des dominantes, enfin des pays qui sont plus représentés
Alors là, aujourd'hui, pour la nouvelle série, on a décidé de faire 28 vidéos, en incluant toujours le Royaume-Uni, même s'il n'est plus dans l'UE aujourd'hui, parce qu'on a voulu parler de tous les pays européens et pas de délaisser, comme on a vu au début de la pandémie. On parlait beaucoup de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, mais on parlait pas beaucoup de la situation en Bulgarie, en Roumanie, en Estonie même. Donc c'est vrai qu'on a fait ce pari de travailler sur tous les pays. Et aujourd'hui, on est à 11 vidéos, donc la dernière sur l'Espagne est sortie la semaine dernière. Et tout au début de notre série, le premier épisode, c'était sur la Bulgarie, par exemple. C'était vraiment avec l'idée d'informer via les témoignages de ces jeunes Européens.
Et donc, à chaque fois, il y a quand même au moins un minimum de personnes pour chaque pays qui témoignent. Enfin...
Oui, on essaye d'avoir entre 3 à 5 personnes par pays. Et ça marche toujours avec au moins un mini, enfin, en égalité homme-femme aussi pour avoir une pluralité d'opinions en fait.
Et avec toujours un questionnaire standard, c'est ça? C'est quoi les questions
Oui, on pose les mêmes questions à tous les jeunes. C'est aussi intéressant de voir les comparaisons comme ça entre les pays avec comment la situation a démarré, comment la pandémie a été gérée dans le pays, comment elle est aujourd'hui. Donc on voit l'évolution. Et après, ensuite. On leur demande quel est l'impact de la crise sur leur quotidien, eux. Sur beaucoup, par exemple, ont perdu leurs emplois, ont eu des problèmes dans leurs études. Il y a eu beaucoup de problèmes comme ça. D'autres, ça n'a pas forcément impacté parce qu'ils avaient des emplois qui leur permettaient de continuer. Et après, on leur pose aussi les deux questions sur l'avenir de l'Union européenne, comment ils voient l'Europe après et comment ils ont estimé que l'Europe avait géré cette crise, au moins au début.
Alors, c'est une question difficile, mais quelles sont les tendances? Enfin, peut-être qu'il y a des différences aussi selon les pays, mais en gros, sur la gestion de la crise.
Alors globalement, quand on interviewe des personnes, que ce soit en Estonie, en Roumanie, en France, on nous parle du manque de solidarité au début de la pandémie. Beaucoup auraient aimé qu'il y ait une vraie réponse européenne et pas que chaque pays soit un peu... individualiste, que chaque pays pense à soi. Hier encore, on a interviewé une jeune au Royaume-Uni qui disait que le virus n'a pas de frontières et on aurait dû gérer tous ensemble. Alors, il y a un plan aujourd'hui européen, il y a plusieurs mesures qui sont faites pour qu'on travaille ensemble, mais voilà, beaucoup de jeunes ont estimé qu'on n'a pas assez travaillé ensemble.
Est-ce qu'il y a des pays où la crise a eu nettement plus d'impact que d'autres?
Bah, on a entre les premiers épisodes, les premiers interviews qu'on a pu réaliser et aujourd'hui, par exemple en Roumanie, au début il n'y avait pas beaucoup de cas. Maintenant c'est l'inverse parce que il y a eu en France et en Italie, en Espagne, on a été beaucoup touchés. Et après ça a été un peu les pays du Nord. Donc c'est vrai qu'on a pu voir en fonction des interviews qu'on a pu réaliser l'évolution de la pandémie et l'évolution en fait des témoignages et le changement parfois des opinions des jeunes dans les pays.
Et est-ce que les témoignages sur le ressenti personnel sont plutôt négatifs ou est-ce qu'il y a quand même un peu d'espoir?
Alors c'est un peu des deux parce que avec Mathis, ce qui nous a beaucoup marqué, c'est des jeunes qu'on avait interviewés il y a 3 ans qui étaient très positifs sur l'Union européenne et en fait qui ont été déçus de la réaction de l'UE. Donc c'est vrai qu'on a pu voir l'évolution depuis avant la pandémie et aujourd'hui.
Ça c'est par rapport à l'Union européenne, mais par rapport à leur quotidien, est-ce qu'il y en a qui pensent que ça va nous changer en bien, par exemple, ou
Alors beaucoup estiment qu'on va prendre, et espèrent que on va prendre des mesures plus vertes, que ça va nous rappeler que l'écologie, l'environnement, c'est important, et ils le prenaient déjà avant, et là ils pensent que ça peut être positif dans ce sens-là, et qu'on va changer un peu nos manières de voir et nos manières de vivre. Après, il y en a aussi qui nous ont parlé du télétravail aussi. Beaucoup de jeunes ont pu télétravailler et ils aiment beaucoup, ils apprécient pouvoir faire un peu des deux. Donc, ces nouvelles manières de travailler les intéressent beaucoup et ça, ils aiment beaucoup.
Ils n'ont pas trop peur dans l'ensemble, quoi, de l'avenir.
Oui et non, généralement non, ils sont assez positifs. Ils disent qu'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne de toutes les erreurs qu'on a faites et de tout ce qui s'est passé avec la pandémie.
Et l'avenir de l'Europe, comment est-ce qu'ils le voient? Ça a changé, j'imagine aussi ça.
Alors l'avenir de l'Europe a changé pour certains. Ils ont, avec le manque de coopération des pays au début, ils ont pensé que l'Europe de demain, qu'ils voyaient si belle, c'est pas encore pour demain. On va devoir attendre un petit peu. Mais c'est vrai que oui, en général, ils ont tous le rêve européen. Ils ont juste peur pour beaucoup qui ont pu bénéficier d'échanges, des Erasmus, des choses comme ça, qu'en fait, il y a un stop, qu'il y ait de moins en moins d'échanges entre les jeunes. Toutes les opportunités que nous, par exemple, même avec Mathilde, qu'on a pu avoir, que les générations d'après ne puissent plus le faire. C'est vrai que c'est une crainte de beaucoup de jeunes aujourd'hui, qu'il y ait moins d'échanges entre les jeunes, dans les universités, mais aussi après dans les métiers, et moins d'échanges entre citoyens. C'est ça qui crée aussi l'identité européenne.
Oui, bien sûr. Est-ce que toi, d'Europe, as quand même des projets pour cette année?
Alors, si la pandémie est un peu plus gentille cette année, ça nous permettrait de continuer les projections dans tous les pays en Europe. C'était à la base, c'est ce qu'on voulait, continuer nos projections de notre documentaire dans toute l'Europe, mais aussi en France, en Finistère. Donc, l'idée va être de reprendre toutes ces projections-là, de continuer et de terminer notre web-série. Il nous reste encore plus d'une dizaine d'épisodes à sortir dans les prochains mois. Et puis après, qui sait, dans peut-être quelques temps, on repartira sur de nouveaux projets. Nous, on aimerait bien repartir à la rencontre de jeunes européens, mais plus en visio, mais en vraiment aller sur le terrain. Donc, c'est dans nos objectifs de 2022.
Et c'est tout le mal qu'on souhaite à Sophie Herriot, fondatrice avec sa sœur Mathilde de l'association Toit d'Europe, dont vous retrouvez les différentes vidéos sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook.